Chapitre 83, abordage. Resté seul, le capitaine Berthaud, dit Monte Auban, s'enfonça dans une causeuse, passa la main dans ses cheveux et dans son collier de favori. Puis, croisant une de ses jambes sur l'autre et s'accoudant sur le sommet de son genou, il resta ainsi plongé en apparence dans les réflexions les plus profondes, jusqu'au moment où Pétrus, soulevant la portière, apparut sur le seuil de l'atelier, sortant de sa chambre. Il aperçut le capitaine dans la posture que nous venons de décrire. L'entrée de Pétrus ne fut pas remarquée sans doute par le capitaine, car il resta le front appuyé sur sa main et dans la position d'un homme complètement absorbé. Pétrus le regarda un moment, puis toussa pour tirer le visiteur de sa méditation. Le capitaine frissonna en entendant cette voix, et soulevant la tête, il ouvrit les yeux comme un homme qui se réveille, regardant Pétrus sans sortir de la causeuse ni se lever. « Vous désirez me parler, monsieur ?» demanda Pétrus. « C'est la voix, la véritable voix de son père !» s'écria le capitaine en se relevant et en allant au jeune homme. « Vous avez connu mon père, monsieur ?» dit Pétrus en s'avançant. Oh, « C'est la démarche, la véritable démarche de son père !» s'écria une seconde fois le capitaine. « Si j'ai connu ton père, votre père, je le crois, morbleu bien !» Puis, croisant les bras, « Mais regarde-moi donc » dit-il. « Je vous regarde, monsieur, » dit Pétrus, étonné. Oh, « En vérité, c'est tout le portrait de son père au même âge, » continua le capitaine en regardant le jeune homme avec amour. « Ou, pour nous servir d'une expression populaire qui rend encore mieux notre pensée, en le mangeant des yeux. Oui, oui, et à quiconque dira le contraire, je répondrai simplement qu'il en a menti. Ah, tu ressembles à ton père comme deux gouttes d'eau. Embrasse-moi donc, mon gars !» « Mais à qui ai-je donc l'honneur de parler ?» demanda Pétrus, de plus en plus surpris de l'air, du ton et des façons familières de cet inconnu. « À qui tu parles, Pétrus ?» continua le capitaine en ouvrant les deux bras. « Et tu m'as regardé, et tu ne m'as pas reconnu ?»« Ah, il est vrai, » ajouta-t-il mélancoliquement, « que la dernière fois que tu m'as vu, tu n'étais pas plus haut que cela. » Et le capitaine, avec la main, mesura un bambin de 5 ou 6 ans. « J'avoue, monsieur, » dit Pétrus, de plus en plus déconcerté, « que malgré les nouvelles indications que vous venez de me donner, non, je ne vous reconnais pas. »« Je te pardonne, » dit d'un air de bonté le capitaine. « Cependant, » continua-t-il, avec une légère nuance de tristesse dans la voix, « j'aurais préféré que tu me reconnusses. On n'oublie pas d'ordinaire un second père. » « Que voulez-vous dire ?» demanda Pétrus en regardant fixement le marin, car il se croyait enfin sur la voie. « Je veux dire, ingrat, » répondit le capitaine, « qu'il faut que les travaux de la guerre et le soleil des tropiques m'aient bien changé, puisque tu ne reconnais pas ton parrain. « Comment, vous seriez l'ami de mon père, Berthaud, surnommé Monte Auban, qui vous êtes séparé de lui à Rochefort et qu'il n'a jamais plus revu depuis ?» « Eh, pardieu, oui, hein, nous y voilà donc, mille sabords, ce n'est pas sans peine. Allons, viens donc m'embrasser, mon petit Pierre, car tu t'appelles Pierre, comme moi, puisque c'est moi qui t'ai donné mon nom. » C'était une vérité incontestable que le nom de baptême du jeune homme eût subi une légère modification. « Ah, de grand cœur, mon parrain, » répondit en souriant Pétrus. Et comme le capitaine lui ouvrait ses deux bras, il s'y jeta avec une effusion toute juvénile. De son côté, le capitaine le serra sur sa poitrine à l'étouffer. « Oh, morbleu, que cela fait du bien !» s'écria ce dernier. Puis, l'écartant de lui, mais sans le lâcher, « Ah, c'est que c'est son père tout craché !» dit-il en le contemplant avec admiration. « Ah, ton père avait juste ton âge quand je l'ai connu !» « Ah, mais non, non, j'ai beau être partial pour lui. Non, non, sacrebleu, il n'était pas si beau que toi. Ta mère y a mis du sien, mon petit Pierre, et cela n'a rien gâté. Ah, ton jeune visage me rajeunit de 25 ans, mon gars. Allons, assieds-toi, je te verrai plus à mon aise. » Et s'essuyant d'une main les yeux avec le revers de sa manche, il le fit asseoir de l'autre sur le canapé. « Ah, ça, je ne te gêne pas, » dit-il, avant de s'asseoir lui-même, « mais j'espère que tu as quelques instants à me donner. » Ah, tout le reste de la journée, si vous voulez, monsieur, je n'aurai pas les quelques instants que vous me demandez que je les prendrai. Monsieur, qu'est-ce que cela, monsieur? Ah oui, la civilisation, la ville, la capitale. Si tu étais un paysan, tu appellerais ton parrain Berthaud tout court. Vous êtes un caballero et vous m'appelez monsieur. Le capitaine poussa un soupir. « Ah, dit-il, si ton père, mon pauvre vieil herbel, savait que son fils m'appelle monsieur, permettez-moi donc de ne pas lui dire que je vous ai appelé monsieur et je vous appellerai parrain Berthaud tout court. Ah, la bonne heure, voilà qui est parlé. Quant à moi, que veux-tu? C'est une vieille habitude de marin, mais il faut que je te tutoie. Je tutoyais ton pauvre père qui était mon ancien et mon chef. » Juge donc ce que ce serait si un gamin comme toi, car tu es un gamin, m'imposait l'obligation de dire « vous ». « Mais je ne vous impose aucunement cette obligation, » dit en riant Pétrus. « Ah, et tu fais bien. D'ailleurs, je ne saurais plus en disant « vous » comment te dire ce qu'il me reste à dire. « Il vous reste donc quelque chose à me dire ?»« Sans doute, monsieur mon filleul. » « Alors, parrain, dites ?» Pierre Berthaud regarda un instant Pétrus en face. Puis, comme s'il faisait un effort, « Eh bien, mon pauvre garçon, accoucha-t-il enfin, nous sommes donc dans la panne ?» Pétrus se tressaillit en rougissant. « Comment dans la panne? Qu'entendez-vous par là ?» demanda Pétrus, qui ne s'attendait aucunement à la question et surtout à la brusquerie avec laquelle elle était faite. « Ah, sans doute, dans la panne, » répéta le capitaine. « Autrement dit, les Anglais ont donc jeté le grappin d'abordage sur notre mobilier. »« Hélas, mon cher parrain, » dit Pétrus, en recouvrant son sang-froid et en essayant de sourire, « les Anglais de terre sont bien plus terribles que les Anglais de mer. » « Oh, j'avais toujours entendu dire le contraire, » fit avec une fausse bonhomie le capitaine. « Il paraît que l'on m'a trompé. » Cependant, dit vivement Pétrus, il faut que vous sachiez tout. Je ne suis aucunement forcé de vendre mon billet. Pierre Berthaud secoua la tête en manière de dénégation. Comment non, dit Pétrus. Non, répéta le capitaine. Cependant, je vous assure. Voyons, filleul, espères-tu me faire à croire que, lorsqu'on a fait une collection comme la tienne, que, lorsqu'on a réuni à ton âge ces potiches du Japon, ces bahuts de Hollande, ces porcelaines de Sèvres, ces figurines de Saxe, moi aussi, je suis amateur de bric-à-brac, me feras-tu à croire que l'on se défait de tout cela volontairement et de gaieté de cœur ? « Je ne vous dis pas, capitaine, » répondit Pétrus, essayant d'échapper au mot « parrain » qui lui semblait ridicule, « je ne vous dis pas que ce soit volontairement et de gaieté de cœur que je vends tout cela, mais c'est sans y être forcé, contraint, obligé, dans ce moment du moins. »« Oui, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore reçu de papier timbré, qu'il n'y a pas encore de jugement, que c'est une vente à l'amiable pour éviter une vente par autorité de justice. Je comprends parfaitement tout cela. Filleul Pétrus est un honnête homme qui préfère avantager ses créanciers des frais plutôt que d'enrichir les huissiers. Mais je n'en dis pas moins, il y a de la panne là-dessous. » « Eh bien, pris à ce point de vue, j'avoue qu'il y a du vrai dans ce que vous me dites, » répliqua Pétrus. « Alors, dit Pierre Berthaud, il est bien heureux que je sois entré ici, vent arrière. C'est tout bonnement Notre-Dame de la délivrance qui m'y a conduit. »« Je ne vous comprends pas, monsieur, » dit Pétrus. « Monsieur, qu'est-ce que cela ? » s'écria Pierre Berthaud en se levant et en regardant autour de lui. « Où y a-t-il un monsieur ici ? Et qui est-ce qui a appelé ce monsieur ? » « Voyons, voyons, asseyez-vous, parrain, c'est un lapsus linguae. » « Ah, bon, voilà que tu me parles arabe, la seule langue que je ne sache pas. Morbleu, parle-moi français, anglais, espagnol, bas breton, je te répondrai, mais pas de, lapsélingus, je ne sais pas ce que cela veut dire. » « Je vous disais simplement de vous asseoir, parrain. » Et Pétrus appuya sur le titre. « Je le veux bien, mais à une condition. Laquelle ? C'est que tu vas m'écouter, religieusement, et que tu répondras à mes questions. » « Catégoriquement. Alors je commence. Et moi j'écoute. Et en effet, Pétrus, très vivement intéressé, quoi qu'il en dit, par cette conversation, ouvrit, pour ainsi dire, ses oreilles à deux battants. « Voyons, commença le capitaine, ton brave homme de pair n'a donc plus le sou. Cela ne m'étonne pas, quand je l'ai quitté, il était en train, et le dévouement, cela va plus vite que la roulette. » En effet, son dévouement à l'empereur lui a enlevé les 5/6 de sa fortune. « Et le dernier 6e, les frais de mon éducation le lui ont enlevé, ou à peu près. » De sorte que toi, ne voulant pas ruiner tout à fait ton pauvre père, et désirant cependant vivre en gentleman, tu as fait des dettes, c'est cela, dis, hélas. Mettons quelque amour là-dessous, désir de briller aux yeux de la dame qu'on aime, de passer devant elle au bois avec un beau cheval, d'aller la rejoindre à un bal dans une belle voiture. C'est incroyable, parrain, quel coup d'œil vous avez pour un marin. Et pour être marin, mon ami, on n'en a pas moins un cœur, et quelquefois deux. Malheureux que nous sommes, c'est toujours cet amour qui tourmente les hommes. Comment, parrain, vous savez par cœur des vers de Chénier? Pourquoi pas? Dans ma jeunesse, je vins à Paris, je voulais voir Monsieur Talma. On me dit, vous tombez bien, il joue dans une pièce de Monsieur Chénier, Charles IX. Alors je dis, allons voir Charles IX. Pendant la représentation, on se dispute, on se boxe, on se cogne. La garde entre, on m'emmène au violon, où je reste jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, on me dit qu'on s'est trompé, et l'on me met à la porte. À la suite de quoi, je repars, pour ne revenir à Paris que 30 après. Je demande des nouvelles de Monsieur Talma, mort. Je demande des nouvelles de Monsieur Chénier, mort. Je demande des nouvelles de Charles IX, défendu par autorité supérieure. Ah, diable, fige, j'aurais pourtant bien voulu voir la fin de Charles IX, dont je n'ai vu que le premier acte. C'est impossible, me répond-on, mais si vous voulez le lire, rien de plus facile. Que faut-il faire? L'acheter. Rien n'était plus facile, en effet. J'entre chez un libraire. Les œuvres de Monsieur Chénier, voici, monsieur. Bon, me dis-je, je lirai cela à bord. Je retourne à bord, j'ouvre mon livre, je cherche. Pas de tragédie, rien que des vers. Des idylles, des madrigaux à Mademoiselle Camille. Ma foi, je n'ai pas de bibliothèque à bord. J'ai lu mon Chénier, je l'ai relu, et voilà comment j'ai fait cette imprudente citation. Seulement, j'ai été floué. J'avais acheté Chénier pour lire Charles IX, et Charles IX n'était pas de Chénier, à ce qu'il paraît. Oh, les libraires, quel flibustier! Pauvre parrain, dit Pétrus en riant, ce n'est pas la faute des libraires. Comment ce n'est pas la faute des libraires? Non, c'est la vôtre. Ma faute, à moi? Oui, explique-moi cela. La tragédie de Charles IX et de Marie-Joseph Chénier, le conventionnel. Bon, et le livre que vous avez acheté est d'André Chénier, le poète. Ah, 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 fit le capitaine, accentuant cette exclamation sur 5 tons différents. Puis, après un moment de profonde réflexion, « Alors cela s'explique, dit Pierre Berthaud, mais les libraires n'en sont pas moins des flibustiers. » Pétrus, voyant que son parrain tenait à son opinion sur les libraires, et n'ayant aucun motif de défendre cette honorable corporation, résolut de ne point la combattre plus obstinément, et attendit que Pierre Berthaud reprît où il l'avait quitté une conversation qui ne laissait point que de lui paraître intéressante. « Enfin, reprit le marin, nous disions donc que tu as des dettes, car nous en étions là, n'est-ce pas, filleul Pétrus ?»« Nous en étions là, en effet, dit le jeune homme. »